Bonsoir à tous. Comme vous l'avez entendu, moi, c'est Thierry, 46 ans, belge, trois enfants. Ça, c'est pour la partie privée, tout le monde s'en fout, mais bon, voilà, au moins c'est dit. Qu'est-ce qui m'amène ici? Ben, la présentation d'un super logiciel, hein, comme vous l'avez vu dans la présentation, dans le livre blanc. Donc, Coda. Coda, c'est un logiciel multi-tools, donc couteau suisse. Comme j'aime bien le dire, c'est pour ceux qui connaissent MacGyver, comme je disais tout à l'heure, ça me fait vraiment penser à ce petit couteau suisse où tu peux greffer tout dessus et utiliser l'outil dont tu as besoin en fonction des circonstances. C'est vraiment ça. Et donc, pourquoi est-ce que j'en suis venu à cet outil? Tout simplement parce que j'étais en recherche d'un workflow pour mon apprentissage personnel. Donc, ici, j'essaie de me reconvertir dans la programmation. Donc Python, JavaScript, HTML5, CSS3, etc., etc. Et le souci que je rencontrais, c'est que je n'arrivais pas à stocker les données correctement et donc à les réutiliser correctement. Et donc je suis d'abord tombé sur le concurrent de Coda qui est Notion. Donc une petite présentation vite fait de l'outil Notion. Notion, c'est la même chose que Coda, sauf que c'est un peu plus visuel pour certaines choses et pour d'autres. Enfin, je trouve un peu brouillon l'outil et difficile à prendre en main. Donc les formules, comme j'avais présenté tout à l'heure. Alors, je retombe dessus. À l'époque, et c'est toujours le cas d'ailleurs, pour avoir simplement cette table-ci en français, donc le mois, etc., il fallait écrire un pavé énorme. Donc avec replace, ouvrir les parenthèses, replace, c'est un truc abominable. Alors que dans Coda, la formule est beaucoup, beaucoup plus simple et plus intuitive. Je vous la montrerai tout à l'heure. Bienvenue aux arrivants, il me semble. Donc, Coda, ben, c'est un outil qui permet de concevoir un workspace personnalisé, donc dans lequel on peut créer des notes, faire des to-do list, faire une roadmap, faire un wiki, par exemple. Ici, j'ai un projet qui est en cours. Donc, c'est un projet wiki multilangue. Et donc dessus, bah, moi j'ai commencé à créer toutes mes bases de données, mes tables, etc. Et donc ici, alors, il y a des interactions en fonction des personnes, de ce qu'on recherche, etc. Et donc les gens n'ont plus qu'à remplir le formulaire ici, à dire ce qu'ils veulent comme sujet. Et excusez-moi. Et du coup, il y a une interaction avec des gens un peu plus compétents qui répondent aux problèmes des gens. Donc ça, c'est pour la partie vite fait de ce document-ci. En soi, Coda, il est utile sans l'être. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut très bien s'en passer, mais une fois qu'on y a goûté, on ne veut plus s'en passer. Parce qu'il permet vraiment de faire absolument tout ce qu'on veut. Si vous voulez simplement prendre des notes, bah, comme vous le voyez ici, je prends des notes. Vraiment comme dans un bloc-notes traditionnel. Si vous voulez faire votre gestion, par exemple, de budget, moi ici j'ai créé un petit logiciel, enfin logiciel. J'appelle ça un logiciel, mais c'est plus une application où je rentre mes informations ici, je valide et quand c'est envoyé dans la table, eh bien, je peux retraiter l'information et la renvoyer dans la table source où je stocke les archives des transactions, par exemple. Donc voilà, jusqu'ici, pas de questions? Personne?
Pour
C'est
l'instant,
clair?
tu penses, tu peux y aller, tu peux continuer.
Ok,
Ouais.
ok. Donc, Coda, c'est un outil vraiment où vous pouvez aller les yeux fermés. Vous trouverez vraiment tout ce qu'il vous faut. Il y a un forum vraiment au top. Donc, quand vous avez un problème, vous cherchez une solution, une question à laquelle vous ne trouvez pas de réponse tout de suite, ben le forum il est là pour ça. Si vous faites une demande, ici par exemple, demandez à la communauté, vous rentrez votre question, vous créez votre sujet, et comme vous pouvez le voir, il y a des réponses tous les jours, tous les jours, tous les jours, quoi. C'est pas une communauté où il faut attendre une semaine avant d'avoir une réponse. Ici, le sujet, il y a 4 heures, il y a déjà eu 6 réponses dessus, quoi. Pour donner un exemple de rapidité de réponse, ce n'est pas toujours le cas, hein. Il faut bien se rendre compte qu'on a quand même un outil qui est américain. Et donc, parfois, bah, il faut attendre un petit peu, hein, en fonction d'où on vient. Il faut savoir, par exemple, que la personne avec qui j'étais en communication en Californie, il était midi chez lui et presque 21h chez nous. Donc, on ne vit pas de la même façon, mais c'est ça qui est bien. C'est que du coup, ben, vous rencontrez un peu des gens de tout horizon, et ça, c'est cool. Sinon, à côté de ça, il y a aussi des sources qui vous permettent d'apprendre avec des gens d'un niveau de compétences vraiment plus élevé. Et grâce à ces personnes-là, vous allez apprendre énormément de choses parce que, en fait, ils postent à chaque fois sur un blog qui s'appelle Medium, bah, des sources vraiment inestimables sur lesquelles vous pouvez trouver beaucoup, beaucoup d'informations sur les questions que vous pouvez vous poser. Pour les gens qui viennent de Excel, etc., par exemple, il y a pas mal de sources de transition, etc. Donc, ça, c'est vraiment aussi génial. Et voilà. Sinon, vous avez aussi les sources techniques, donc les formules que l'on utilise dans Coda. Donc, ceci, c'est la page des formules. Et comme vous pouvez le voir, elles sont assez nombreuses. Il y a vraiment de quoi faire énormément de choses. Et même moi, ça fait, je pense, maintenant 5 ou 6 mois que je suis sur Coda, je n'ai même pas vu un quart des formules qu'il y a ici, quoi. Donc, c'est vraiment très, très complet. Et ce qui fait un peu sa difficulté aussi et qui rebute un peu les gens parfois, c'est que justement, il est tellement complet qu'il en devient par moments complexe. Donc c'est vrai que pour les débutants, ça peut rebuter un petit peu, mais une fois qu'on accepte de passer cette étape, qui ne dure pas plus d'une semaine en général, on arrive à faire des choses vraiment extraordinaires en très très peu de temps. Comme tu vois par exemple ici, ce document, ça fait 3 semaines que je travaille vraiment dessus, parce que je vais dans la profondeur, dans la précision, etc., pour obtenir le meilleur résultat possible. Un bête exemple ici, les localités. Bon, c'est en Belgique, hein, vous me pardonnerez. Bah, j'ai rajouté un lien direct vers une page qui donne toutes les localités du pays, quoi. Tu vois? Donc ça, c'est une façon d'organiser, de structurer tes documents auxquels il faut penser quand vous travaillez avec des bases de données. Donc il faut pas hésiter à rajouter des informations. Et là-dessus, encore une fois, il faut faire attention aussi comment on structure ces documents. Parce que si, par exemple, vous vous contentez de remplir, par exemple, les organismes ici, si je m'étais contenté de laisser ça comme ça présenté ici, bah, je n'ai pas beaucoup d'informations. Donc ici, je travaille avec ce qu'on appelle un lookup. Donc c'est une relation en fait avec une autre table qui est nom de l'organisme ici dans mon cas. Et donc en fonction du nom de l'organisme, bah, c'est structuré avec le code postal ici en l'occurrence, mais on peut structurer ça de manière différente. On peut remettre ça en tableau par exemple et dire qu'on ne regroupe pas. Voilà. Et là, vous avez un tableau très clair et vous le structurez, vous l'assemblez comme vous voulez, quoi. Vous lui donnez vraiment ce que vous voulez comme information. Et par exemple, si je veux regrouper ça proprement, je vais faire comme ceci. Donc, je groupe sur la gauche. Et là, c'est par catégorie que c'est regroupé. Par nom de l'organisme, etc. Et là, vous pouvez rajouter en plus des informations supplémentaires par société, quoi. Et ça, c'est vraiment top. Pour ceux qui connaissent les bases de données, ben, c'est vraiment un outil qui remplace Excel sans aucun problème. Il est plus puissant qu'Excel et il permet pas mal de flexibilité, quoi. Il n'y a pas besoin de rentrer des formules avec 10 000 parenthèses pour arriver à un résultat, hein. Ça, c'est clair que c'est beaucoup plus facile à ce niveau-là. Et donc, en fait, c'est ça, hein, Coda, c'est vous commencez avec une page blanche et vous construisez votre document au fur et à mesure avec ce que vous avez besoin. J'ai un autre document, par exemple, qui est ici. Alors, juste 2 petites secondes, ma connexion est un peu lente par moment. La présentation, voilà. Moi, ici, j'ai créé cette présentation avec une idée. C'est de proposer aux gens la matière qu'ils veulent voir et donc ils votent en fonction de ce qu'ils veulent apprendre. Et une fois que j'ai obtenu tous les votes, ben, j'ai un total et quand j'ai fini, ben, je reset le tableau et si je peux repartir sur une autre session et ainsi de suite, quoi. Donc ça permet énormément de choses et c'est ça qui fait sa force. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? J'ai pas eu le temps de regarder.
Alors, pour l'instant, non. Maintenant, juste une petite question de moi direct. C'est
Ouais.
qu'en fait, on pourrait dire tout simplement que Coda, par défaut, c'est un outil un peu bac à sable sur lequel
Mmh, tout à fait.
il a sa propre, on va dire, son propre fonctionnement. Et je pense qu'il faut c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ce que tu avais vu avec Notion, où Notion faisait en sorte que tu t'appuyais sur des, on va dire, des fonctions qui, pour le coup, étaient des fonctions, si je ne me trompe pas, un peu mode en langage, je crois, JavaScript, ou je ne sais plus
c'est ça.
Lequel c'est, tandis que la force du coup de Coda, c'est qu'ils ont fait leur propre framework, on va dire, avec leur propre, on va dire, outil, ou ce que tu nous montrais avec les formules, et on va dire, est beaucoup plus, c'est pour ça que c'est beaucoup plus intuitif pour quelqu'un qui connaît pas, et que du coup, cet aspect bac à sable, pour construire finalement, que ce soit quelque chose, c'est là où tu, voilà la question, c'est que tu peux faire quelque chose vraiment d'ultra simple, qui peut être, par exemple, je sais pas, par exemple, un simple, je sais pas, un wiki, un simple site
Tout à
web,
fait.
comme tu peux construire une application de ce que tu nous montrais avec l'outil de gestion. Et ça, en fait, après, ben, de toute façon, je te laisse après de continuer. C'est peut-être pour donner un ordre d'idée à quelqu'un qui vraiment débute sur l'outil. Est-ce qu'il peut se familiariser en, je sais pas, par exemple, en, je sais pas, par exemple, disons, 2-3 heures, commencer à construire quelque chose directement, ou est-ce qu'il a
Ah
besoin de...
oui, très 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 facilement. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé. Moi, j'ai commencé à créer ma première page vide, très simplement. Donc ici, vous créez. Donc ça, c'est quand vous commencez sur Coda. Donc vous arrivez sur cette interface-ci avec votre workspace. Donc ça, c'est votre espace de travail principal. Et dedans, vous avez des folders que vous pouvez créer aussi. Donc ici, ça, c'est celui de base qui est par défaut, il est là. Donc, c'est un dossier privé, mais vous pouvez en créer en fonction de votre plan tarifaire. Ici, en version gratuite, vous avez le droit au plan sans les dossiers privés. Mais par contre, vous pouvez créer un dossier partagé. Donc, dossier partagé, vous lui donnez un nom, je vais dire Coda, formation, voilà. Et puis alors, vous pouvez changer l'icône directement aussi, par exemple. Donc, on va mettre Coda. Vous créez votre espace, votre dossier. Et dedans, vous pouvez maintenant créer toutes les pages que vous voulez. Donc, par exemple, comme je disais tout à l'heure, on peut importer du Notion ou travailler avec de l'Excel, du Google Doc, etc. Donc, ça, c'est vraiment génial. Ou partir, et c'est ça que je trouve bien, c'est que vous avez vraiment directement le choix, quoi. On ne vous impose pas de prendre un template, parce que en termes de template, il y a à boire et à manger, hein. Les CRM, des tables de vote, des Kanban. En fait, vous avez vraiment de tout, de tout, de tout, quoi. Il n'y a pas de limite. Il n'y a que votre imagination qui va vous bloquer à un moment donné. Hein, vous avez même du Spotify, etc. Donc, il y a même de l'UPS quelque part. Franchement, il y a énormément de choses, énormément. Et ouais, c'est un outil bac à sable. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je pars donc pour la partie démo d'un dossier vierge, donc d'une page blanche. Et quand vous arrivez, bah, c'est vrai que vous êtes un peu perdu parce que vous ne savez pas trop vers quoi aller. Mais directement, qu'est-ce qu'il vous dit? Write something or type slash ou backslash pour ceux qui préfèrent, for more. Et donc, directement, ben là, tu vas mettre un titre, ben je vais dire test, voilà. Directement, il y a des options qui s'affichent. Ben moi, je vais ajouter une icône, ok. On s'en fout, on choisit n'importe quoi ici, c'est pour montrer. Hop, comme ça, un labo. Et puis, cover, c'est cool. Ben, ok, nickel. J'ai une en tête, comme pour les sites web. Et ça, c'est vraiment génial. Et alors, vous avez la possibilité d'aller directement choisir sur Unsplash une image quelconque en rapport avec votre dossier éventuellement. Désolé pour ma connexion, elle est un peu lente aujourd'hui. Pourtant, j'ai arrêté le DL des films pour adultes. Et là, ne veut pas entendre raison. Bref, on va le laisser comme ça, mais vous avez compris le principe, hein. Il suffit de prendre une image. Et même si je upload, à la limite, peut-être que voilà, on va prendre les bootcamps. Donc, vous pouvez changer très facilement l'aspect de votre page. Et c'est là que ça devient vraiment amusant parce que c'est, comme tu dis, un bac à sable dans lequel tu peux faire tout ce que tu veux. Hein, tu peux ajouter un bouton si tu veux. Il y a déjà des boutons préconfigurés. Donc, ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'intéressant. Tu peux faire une notification, une modification de table, de rangée, etc. Donc, ça, c'est fort. Et tu as des contrôles un peu plus avancés, etc., qui permettent d'avoir vraiment un contrôle de ta page vraiment comme tu veux. Et moi, je pars du principe que la première page que vous créez, en général, c'est un peu la page d'accueil de votre site. C'est celle qui va prendre un peu tous les liens, en quelque sorte. vers d'autres structures de votre page, comme j'ai fait ici. Si tu vois, donc ici dans présentation de Coda, ben, j'ai ma structure de base qui est présentée avec l'accueil pour pouvoir voter. Et si je veux maintenant, il est très simple pour moi soit de passer, alors ça aussi c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est la présentation. Donc là, je passe en mode PowerPoint et je peux passer simplement comme ça les pages, vraiment comme si je faisais passer un PowerPoint, ce que tu n'as pas dans d'autres applications en temps normal. Donc ça, c'est vraiment génial. Et une fois que tu as fini ton travail, ben, tu peux ensuite le partager, tu vois. Donc alors pourquoi est-ce qu'il se met en offline? On m'entend toujours?
Oui, t'inquiète.
Oui, pas de okay. problème. Parce que quand je vois offline, je me pose des questions, je me dis j'ai peut-être perdu ma connexion Internet. Donc là, tu fais share. Et donc, tu choisis la page que tu veux partager, etc. Donc, imaginons, moi, je vais partager le projet complet. Je regarde ici, je peux le faire en embed aussi. Donc, si je veux partager avec un copain, par exemple, ou même sur un forum, bah, ici, j'ai la possibilité de faire un preview directement, de voir ce que je vais partager et de donner la possibilité aux gens de voir directement la page en question et donner un avis, par exemple. Tu vois, ça, c'est vraiment quelque chose de très, très bien fait. Et si je veux le publier parce que j'ai fini mon travail dessus, ben là, je vais le publier comme si c'était un site internet. Et donc ici, ben, je lui donne une catégorie, l'apparence. Donc si je veux seulement qu'il soit en mode view, bien en mode play, mais où tu peux copier le document et le réutiliser chez toi et le modifier à ta sauce. Donc ça, c'est important de savoir qu'on peut le faire. Et puis alors, tu as aussi le mode edit, où là, en gros, tout le monde a le droit de travailler dessus, de modifier, de faire ce qu'il veut. Mais alors, dans cette optique-là, ben, c'est un document que tu vas partager uniquement avec ton équipe, quoi. Parce que si tu le mets comme ça sur le store, donc sur la galerie, tout le monde pourra modifier ce que tu as fait et détruire ce que tu as fait. Ce ne sera pas non plus l'idéal. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et donc, à la fin, ça vous donne l'apparence d'un site, tu vois, avec vraiment un menu au-dessus, avec l'apparence, les boutons, vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir... travailler comme sur un site web, quoi. Donc ça, c'est vraiment top. Tu peux vraiment faire plein de choses. Et comme tu vois ici, moi, j'ai structuré en fonction d'un projet, etc. Tu as également aussi un truc que j'aime beaucoup, c'est la petite extension navigateur qui permet, par exemple, moi, je récupère les vidéos comme ça aussi. Ben, tu récupères le lien d'une vidéo que tu mets dans une base de données ici. Donc moi, j'ai stocké... des vidéos que j'ai envie de revoir, etc., sans devoir chercher trop longtemps après. Justement, dans l'optique d'apprendre, ici, c'était tout ce qui a trait avec les bases de données, justement, JavaScript, etc. Donc voilà, ça vous permet de faire énormément de choses. Et dedans, quand tu utilises ce petit raccourci, cette extension, tu as le détail de la vidéo en plus. Donc ça, c'est vraiment top. Et ça, c'est par défaut. Hein. Ce n'est pas quelque chose que tu programmes toi. C'est quelque chose de proposé naturellement dans Coda, que c'est vraiment quelque chose de cool. Dans les outils de ce genre-là, en général, par exemple, Notion, il permet le partage, mais la publication en site web, de mémoire, il ne le fait déjà pas. Et en termes de sécurité, il est moins avancé aussi. Donc, ça fait partie aussi des différences entre les deux. Donc, voilà. Un peu d'interaction, les enfants, des questions?
Il y a un truc que je pense que tu peux peut-être, si tu as creusé, c'est que juste quand même, on l'a pas précisé, par qui c'est fait? Est-ce que, bon, tu nous as dit, il y a en effet qu'il y a la communauté, forcément, qui répond ouais. super, super vite, etc. Donc, ça veut dire que, voilà, c'est par qui c'est fait, globalement, qui le maintient et s'en occupe globalement, hein, tu sais, dans les grosses lignes, juste pour... Mm-hmm.
Ici, ça a été fait par Shishir Merotra, excusez-moi pour le nom, et Alex Deneuil. Et il est sorti en première version en 2019. Et aujourd'hui, donc, c'est eux qui le maintiennent avec leur équipe. C'est donc une jeune société, hein, donc 2019. Donc, ils ont commencé en 2017. Et donc, ils ont mis en place un système de forum, comme j'ai montré tout à l'heure. Est vraiment super parce que ça permet de communiquer justement avec tout le monde et de poser des questions, demander de résoudre un bug, etc. Et du coup, c'est comme ça qu'ils maintiennent un peu le produit en fonction justement des demandes et des critiques, etc., des gens. Donc, on est assez bien écouté dans la communauté, ça c'est cool. Ce n'est pas le cas, encore une fois, de tous les logiciels. À Notion, d'ailleurs, pour revenir à lui, si tu as envie de te faire entendre par, par Notion, ben, il faut passer par des intermédiaires comme des YouTubeurs, etc., qui, eux, sont écoutés, comparés ben, à des gens lambda comme moi, quoi. Donc ça, je n'apprécie pas du tout, cette mentalité. Alors qu'ici, ben, tu poses sur le forum et tu es sûr à 100% d'avoir une réponse, peut-être pas dans les 5 minutes qui suivent, mais en tout cas assez rapidement en général, à moins que ça soit une question un peu trop technique pour le premier niveau. Et dans ce cas-là, ben, il faut attendre un tout petit peu plus, mais là, tu as quand même toujours une réponse. Et encore une fois, même si tu ne trouves pas une réponse comme ceci, donc quand tu es sur ton document, en bas à droite, tu as un petit point d'interrogation. Et quand tu cliques dessus, tu peux contacter le support directement. Et là, tu as une personne qui va prendre ta question ou ton problème et qui va résoudre le problème avec toi. Et l'avantage, encore une fois, c'est qu'il propose naturellement un guide de démarrage. Et ça, c'est vraiment top parce que ça te permet d'apprendre les premières bases du logiciel et d'évoluer vers, donc, vers un apprentissage un peu plus avancé. Voilà, je cherchais le document. Et donc, c'est présenté comme ceci, avec vraiment une vraie structure, avec des vidéos, des tips, des formules, etc. Et chaque fois, tout est bien expliqué dans les vidéos. C'est parfois un peu trop court, quand tu n'as vraiment aucune connaissance dans le domaine, mais tu la repasses deux, trois fois et ça va, quoi. Tu vois, c'est pas quelque chose de trop compliqué à prendre en main. Donc ça, c'est vraiment bien fait. Et à terme de ce petit tuto, si vous voulez plus de détails, plus de technicité, il y a une formation complète qui dure 7 semaines en tout réellement. Donc, tu as une première partie qui est le bootcamp, qui dure 2 semaines, qui, elle, sert vraiment à apprendre les bases complètes. Donc, les formules les plus importantes, donc les 5 premières formules, qui sont ici, donc le filtre, le user, donc je vais le remettre en anglais parce que sinon ce n'est pas très juste pour tout le monde. Donc filter, user, this row, contains and match, if and switch if, excusez-moi. Et puis voilà, ça c'est les 5 formules les plus importantes à maîtriser dans ce logiciel. Et à terme de cette formation de 2 semaines, si vous avez réussi, en général, tout le monde réussit, hein, c'est pas compliqué, hein, c'est pas du niveau universitaire, et que vous avez rentré votre capstone, donc votre projet. Moi, ça a été ce projet-ci, donc le OQR training. Vous êtes sélectionné pour la deuxième partie, donc vous êtes éligible pour la deuxième partie qui dure 5 semaines. Je suis en train de la faire en ce moment, et donc à terme de ça, quand vous avez fini cette formation, vous êtes qualifié de manière vraiment plus avancé, et là vous obtenez un titre supplémentaire déjà affiché sur le forum, et vous recevez quand vous suivez une formation en ligne, un petit certificat comme de quoi vous avez bien suivi une formation dans ce domaine, et voilà quoi. Donc ça, c'est un plus que j'ai fortement apprécié chez Coda aussi. Donc même si tu es débutant à 100%, tu peux devenir expert. Je ne vais pas dire expert de dernier niveau, mais en tout cas expert de niveau 2, 3 facilement, quoi. Que ça, c'est vraiment quelque chose qui est génial. Surtout que c'est gratuit. Ce n'est pas une formation que tu payes. Par contre, il y a l'inconvénient, comme c'est un produit américain, que tu dois te présenter à des heures parfois qui sont tardives ou vraiment très tôt. Parce qu'en fonction de l'heure à laquelle la séance a lieu, bah, tu peux avoir une séance à minuit, par exemple, en comparaison de là où tu es. Donc, voilà. D'autres questions ?
Alors, c'est toujours pareil. C'est parce qu'une petite question de HK. Ou HK, est-ce que tu veux la poser directement, vu qu'il n'y en a pas ? En gros, c'est quelle est l'utilisation en fait, vraiment globale de l'outil ? Alors, il met un outil qui link les différents médias. En fait, je pense que, comme les gens en fait, qui sont dans le, on va dire, dans le livre blanc ne connaissent pas, c'est juste si tu peux refaire un petit rappel de vraiment, si tu fais abstraction de l'aspect technique, vraiment de dire, moi je pense, alors je peux apporter peut-être un petit peu d'eau, on va dire, dans la mécanique là-dessus, c'est juste de peut-être dire que Coda, en fait, vient mutualiser en fait différents outils qui actuellement sont on va dire dispatchés à gauche à droite, style par exemple une base de données qu'en général tu vas installer de ton côté, un serveur web qui va propulser, on va dire
Le résultat final.
le
Ouais.
résultat, on va dire un langage de programmation qui est leur source à eux et qui est, on va dire, friendly user, c'est-à-dire
C'est ça.
accessible facilement à l'utilisateur. Et un moteur de rendu de façon globale, plus ce que tu nous disais, des liens qui permettent aujourd'hui de travailler avec nombre d'applications que sont, je sais pas, j'imagine, tu nous l'as montré, Google, Slack,
Dropbox,
etc. Voilà.
GitLab, Google Drive, etc. Donc oui, c'est vraiment ça, tu as très bien compris. Donc c'est vraiment une passerelle pour moi, c'est vraiment le couteau suisse sur lequel tu viens ajouter l'outil dont tu as besoin, quoi. Donc tu crées ta table, en effet, et puis dessus, ben, si tu as besoin, par exemple, je ne sais pas moi, je vais lire Gmail, admettons, ben, je vais prendre le pack Gmail ici, je vais l'ajouter. Ben, évidemment, ici, je suis en version gratuite pour ce document-ci, mais normalement, tu as l'option Add à ton document. Donc ça aussi, c'est important de savoir en fonction du plan que. Alors, open source, non, c'est pas open source, Naga, pour répondre à ta question directement. Donc en fonction du plan tarifaire que tu as choisi, donc ça je reviens ici justement, c'est bien. Donc vous avez quatre plans, et en fonction du plan, vous avez le droit à un certain nombre de packs. Donc évidemment, en fonction du niveau que tu as, bah, si tu passes au niveau pro, bah, tu vas avoir le pack Gmail, Slack, etc., Google, et ainsi de suite. Et plus tu vas prendre de packs, enfin le plan tarifaire élevé, et plus tu auras de packs. Donc ça, c'est un petit peu leur moyen de financer leur projet. Et dans les tarifs, bah, si tu payes mensuellement, bah, évidemment, tu payeras plus cher, tu payeras 36 $ par exemple pour le plan Team, mais si tu payes en plan annuel, bah, tu payeras plus que 30 $ par mois. Par contre, à côté de ça, quand tu vois tous les avantages que ça t'apporte en plus les packs, etc., bah, ça te permet de travailler beaucoup plus en équipe, quoi. Alors qu'une personne qui fait ça, qui prend Coda à titre personnel, bah, il va plutôt s'orienter vers un plan free, voire à la limite un plan pro, parce qu'il va peut-être utiliser un peu plus de formules, tu vois, un peu plus de pages, un peu plus de ci, un peu plus de boutons, et ainsi de suite. Donc du coup, c'est vrai que en fonction vraiment de ce que tu cherches à faire, bah, il faudra t'orienter vers un certain plan tarifaire. Mais tu peux commencer pardon, sur Coda gratuitement sans aucun problème, sans être limité avant un certain moment. Maintenant, si tu fais 3 000 tables avec 20 000 formules, enfin j'exagère, hein, là évidemment. Tu seras obligé de passer à la version supérieure et ainsi de suite, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime chez Coda, c'est que tu sais dans quoi tu mets les pieds et tu sais ce que tu vas avoir exactement. C'est pas on te donne un plan tarifaire et puis tu dois te débrouiller à essayer de comprendre qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que tu n'as pas. Et en plus, avec le plan équipe, ben, tu as le droit à une communication avec un expert pendant 30 minutes. Et ça aussi, ça a une valeur importante. Parce que il y a des personnes techniques, d'autres non, mais qui comprennent quand même assez facilement les choses, mais qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Et ce petit moment avec l'expert fait une grosse différence, parce qu'ils sont là vraiment là pour te soutenir et te guider en fait dans tes démarches et dans l'évolution de ton document. Donc voilà. Et pour les formules, donc comme j'ai montré ici sur la page principale, la page officielle, il est très facile de s'y retrouver. Parce que c'est vraiment bien rangé, quoi. C'est pas tapé comme ça et puis débrouille-toi. Non, non, c'est bien arrangé. T'as quand même pas mal d'informations. Même si pour moi, je trouve que pour un débutant qui n'a pas de connaissances dans ce domaine, c'est un peu limite, quoi. C'est vraiment un peu limite en termes d'exemple. Hein. Alors, HK, tu dis, est-ce qu'on peut passer la partie financière et support? Ouais, bien sûr. Moi, je passe à ce que vous voulez, les enfants. Je ne suis pas difficile. Alors, la partie pratique, eh bien, comment ça se passe quand vous arrivez? Eh bien, vous créez votre premier document. Et ensuite, ben, à vous de savoir ce que vous voulez. En général, ben, vous voulez faire une to-do list, ben, soit vous partez sur la partie vierge et vous faites de vous-même, mais vous pouvez très bien aussi vous dire que vous ne savez pas trop comment commencer. Et dans ce cas, vous prenez une to-do. Hein, vous tapez to do et vous allez avoir les to do list en général qui sont proposées. Alors peut-être que je l'ai mal écrit, avec un tiret au milieu. Voilà, to do list. Tu cliques sur le premier par exemple, et là tout de suite tu vas avoir le template qui est proposé. Si ce template te convient, par exemple, si tu veux utiliser ça comme base de travail, ben, tu fais use template et ça l'ajoute à ton document. Après, à toi de modifier en fonction de tes besoins. Par exemple, ça, moi, j'en ai rien à faire, j'ai pas besoin de l'explication. Tout ce que je veux, c'est savoir qu'est-ce qui fait ce bouton? Et pourquoi est-ce qu'il est là? Hein, quand tu prends un document comme ça, bah, il faut essayer de l'analyser, de décortiquer et de comprendre à quoi il sert vraiment. Ok, la to-do list, je sais ce que c'est, je sais comment ça fonctionne. Ça, ce n'est pas le problème. Par contre, le clear template, pourquoi est-ce que clear est là? Bah, au début, tu ne sais pas quand tu débutes. Donc, si tu fais un clic droit sur le bouton, tu as vraiment le contenu de ce bouton et ce qu'il fait. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va delete en réalité tout le tableau. D'accord? Donc, si je clique dessus, comme tu vois, il m'a effacé tout le contenu. Ça, c'est quand même assez pratique quand tu n'as pas envie de te taper le delete link par ligne, etc. Ça permet vraiment de gagner pas mal de temps. Et l'autre bouton, bah, lui, bah, évidemment, il fait l'inverse. Il va ajouter donc une task, par exemple, aller faire un café. Hein. Bon, ça, c'est déjà fait, mais bon. Voilà. Tu choisis ta date en fonction bah, d'aujourd'hui. Et puis moi, et voilà. Donc, tu fermes ceci. Alors, ça s'est ajouté dans ta to-do list. Ça, c'est un truc assez simple à tester au début, à comprendre. Alors, Prali, yes. Alors, par contre, je ne vois pas toute ta question avec le... Voilà. Pour comprendre son utilité. Bah, comme je t'ai dit, hein, donc, l'avantage de Coda, Prali, par rapport à d'autres produits, c'est que il permet de regrouper, en fait, plein d'autres outils vraiment dans un seul document. Donc, au lieu d'aller, par exemple, chercher ton mail dans ta boîte Gmail directement ou d'envoyer un mail via ta boîte mail, si je mets, par exemple, le Gmail ici, mais à mon avis, je ne pourrais pas le faire directement, mais on voit quand même les options. Donc, tu peux envoyer un mail directement sans quitter ton espace de travail. Tu vois? Voilà, c'est accessible vraiment sur une seule page web, comme Gatsby le dit. Et c'est assez facile à comprendre en termes de formules. Comme tu vois, ce n'est pas quelque chose de complexe. Send email, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Et si tu ne sais pas, bah, tu traduis en français. Et puis, en général, on comprend assez vite. Et tu peux travailler aussi avec une table où tu réceptionnes tous tes mails professionnels et tu les traites. Et ouais, tout ça est gratuit pour une certaine partie. Comme je disais, par exemple, le pack Gmail, lui, fait partie du plan pro. Donc, le plan juste au-dessus à $10 quoi, par mois. Donc, ça reste raisonnable. Et c'est un produit qui vaut vraiment la peine parce que, comme je disais, tu peux greffer tout ce que tu veux dessus. Même, j'ai passé sur mon plan personnel. Je ne sais pas, moi, par exemple, si je voudrais greffer sur ce document-ci un pack. Bah, tu vois, par exemple, moi, j'ai Google Calendar, j'ai Slack, j'ai Mail. Les cross-docs, ça, c'est le moyen de communiquer, en fait, d'un dossier à un autre pour récupérer des informations. Donc, tu as une synchronisation entre les tables. Tu as un Google Doc, le Translate, le temps, YouTube, Zoom, etc. Enfin, tu en as tellement que te faire la liste, ça va être compliqué. Donc, j'essaye de suivre vos questions en même temps. Et oui, il est gratuit. Surtout s'il y a une diffusion. Ouais. Merci, Cap. C'est vrai que si je dois regarder en même temps qui est là, qui n'est pas là...
Rassure-toi, de toute façon, c'est pour ça que tu peux te concentrer. C'est dès qu'on a des questions, on te les remonte. T'inquiète pas.
Ok, ça va, super. Donc voilà, et imaginons, bah, tu as envie de récupérer des fichiers dans ton Dropbox. Bah, ok, pas de problème. Bah, je vais chercher le pack en question. Je l'ajoute à mon doc et dessus, bah, je pourrais envoyer un item, ils appellent ça des items, dans un dossier précis ou les récupérer, etc. Donc il y a vraiment énormément de possibilités.
J'en profite justement, rebondis, parce que HK pose en effet une bonne question qui, pour le coup, est vraiment pratique. Il te demande, en fait, comment, par exemple, si tu as mis en place une to-do list, ouais. Comment, par exemple, on synchronise celle-ci avec, par exemple, un calendar. Et je pense que la question, quand tu dis un calendar, bien sûr, HK, c'est le calendar de, par exemple, de ton smartphone ou le calendar de ton...
Attends, laisse-moi retrouver le bon dossier parce que j'en ai tellement que pour finir, je ne sais plus dans lequel je l'ai mis, mais je pense que c'était l'autre justement. Alors, tu peux synchroniser avec ton Google Calendar, mais moi, je travaille un peu différemment. J'ai un calendrier en fait avec une to-do list intégrée directement. Donc, si je vais sur mon dashboard ici, tu vois par exemple, ceci, c'est mon calendrier qui est juste derrière. Donc, j'ai développé, hop, donc là, je vais sur le calendrier. Voilà, tu as un calendrier classique avec tout ce qu'il faut dedans. Et donc ici, moi, j'ajoute un événement soit ici, directement. Et puis, je peux trier en fonction de ce dont j'ai besoin. Par exemple, si je mets Today, il me dira ce que j'ai aujourd'hui, etc. Comme un calendrier classique. Mais tu peux tout à fait utiliser le pack Google Calendar pour synchroniser ton calendrier avec. Hein. Il suffit très simplement, hop, ici tu fais un slash, et tu mets Google Calendar, tu vois, c'est le pack, hop. Et alors là, tu synchronises ton compte, en fait, je ne vais pas le faire ici, sinon vous allez voir tous mes mails. Et tu synchronises donc ton compte Google Calendar ici directement, quoi. Donc vraiment. Ils ont pensé à tout quoi à ce niveau-là. Et moi, je préfère utiliser donc une vue en fait de mon calendrier, parce que ceci c'est une vue qui ressemble en fait à une to-do list de la façon dont je l'ai mis. Donc en fait, je l'ai transformé en vue card, qui me permet d'avoir une vue un peu plus agréable, comme une to-do list, mais un peu plus visuelle quoi, user friendly. Et surtout sur un portable, sur mobile, c'est plus facile de voir les informations comme ceci que dans une base de données, par exemple. Donc, c'est ça aussi qui fait sa force, c'est qu'ils ont pensé au côté mobile. Alors, tout n'est pas parfait hein, sur la version mobile, mais dans l'ensemble, ça fonctionne plutôt pas mal, quoi. Et puis, surtout, tu peux changer de vue en fonction de tes besoins. Si tu veux une vue détaillée, tu peux vraiment détailler en profondeur, rajouter des colonnes en fonction de tes besoins, etc. Donc, tu peux vraiment aller très, très, très loin dans la personnalisation de ce que tu veux. Et tu peux travailler avec des formules ensuite sur ce que tu as besoin. Donc voilà. Autre question ?
J'en profite, c'est moi qui en profite là. C'était une question d'ailleurs qu'on s'était posée en mode off. De montrer en fait que, alors je ne sais pas si on peut le faire avec le to-do calendar ou on peut plutôt avec un fichier Excel, de montrer que aussi on peut enregistrer, hein, est-ce qu'on peut enregistrer quelque part en mode, là on est en mode site web, mais est-ce que du coup on peut enregistrer en mode local, juste éventuellement montrer, je ne sais pas si tu as un petit exemple ou pas du tout.
Alors enregistrer en mode local, tu ne peux pas vraiment enregistrer en mode local en soi, puisque tout est stocké sur le cloud, hein, c'est une application cloud, comme je le disais au début. Donc tu peux exporter via ton espace personnel les informations dans un dossier, mais ce ne sera pas structuré, quoi. Tu vois, tu auras des choses pas vraiment utilisables en soi. Donc ça, ça fait partie des problèmes des applications de ce genre. Tu peux print, tu peux exporter en PDF ton document, comme si tu faisais un PDF, mais vraiment l'exporter et travailler en offline, par exemple, dessus, tu ne sais pas. Pour le moment, en tout cas, c'est pas encore au point.
En fait, je te posais la question qui était en fait un link avec la question de Prali, parce que demander en fait est-ce qu'il y a moyen de faire des trucs avec les fichiers sur un NAS, genre lire un document, et je pense, Prali, tu me dis si j'ai une bêtise, justement avec peut-être cette capacité de dire, ben en effet, par exemple, je sais pas, tu es en train, par exemple, imaginons tu fais un fichier, je sais pas, par exemple, allez, on fait simple, la to-do list qui se transforme par exemple sous forme d'équivalent de fichier Excel, que tu pourrais par exemple, je sais pas, enregistrer par exemple régulièrement sur un NAS ou de pouvoir en fait avoir quelque chose qui.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
De la continuité de synchro. Voilà, ça te va, Prali, ça ? Ouais, ok.
Tu pourrais faire ça avec une automatisation qui communique avec un fichier Excel, par exemple, en effet. Tu pourrais dire, écoute, moi je remplis mon fichier Excel et je veux que tu m'exportes. Dès qu'il y a une modification sur le fichier Excel, les informations sur Coda, dans une table dédiée à ça. Ça, tu pourrais le faire, oui. Mais ça demande un peu de connaissances un peu plus techniques, là. Donc, c'est pour ça que je n'aborde pas trop ce sujet, parce que, comme tu m'as demandé de rester dans le raisonnable, parce que tu peux exporter en CSV, tu peux faire plein de choses. En fait, il suffit juste d'ajouter le pack dont tu as besoin pour le faire. Donc ici, si je veux exporter en CSV, je vais aller chercher dans les packs. Je vais taper CSV, ouais, voilà. Et tu vois, dessus, je peux importer et je peux exporter aussi en fonction de tes besoins. Donc tu pourrais travailler comme ça. Et puis une fois que tu as importé le document, ensuite tu vas dans les options et tu fais une automatisation en fonction d'un événement, d'un trigger, donc d'un déclencheur. Et qui dit, par exemple, moi, je veux que quand j'ai une modification sur mon fichier Excel, eh bien, tu m'envoies la mise à jour sur ma table Coda. Donc, voilà. C'est ça ta question, Prali ?
Ouais, Je pense que c'est ça. Et puis surtout, voilà, là, tu es parfait parce que comment dirais-je, on est dans le technique, mais sans non plus trop rentrer dans les détails.
Ouais.
Donc, plus pour voir, pour aborder cette possibilité. Voilà. Je pense, Praly, si, n'hésite pas à nous dire si on a besoin.
Faut pas hésiter, si je vais pas assez loin, je vais plus loin, mais j'essaye de ne pas être trop large parce que sinon je vais en perdre la moitié. Mais voilà quoi. Et c'est vrai qu'il faut souligner que dans cette application, comparée encore une fois à Notion, puisque c'est son principal concurrent, c'est que Coda propose des automatisations internes, c'est-à-dire qu'il permet de faire des automatisations directement dans le document, sans passer par une application comme Zapier, Make et autres. Et ça, c'est un gros avantage, parce que parfois, tu n'as pas besoin de sortir de ton document, tu as juste besoin de dire, ben voilà, moi j'ai transféré une donnée, par exemple, je sais pas, moi, je pourrais dire que j'ai rempli, par exemple, un tableau, formule, imaginons, je ne sais pas, où j'ai fait une modification quelque part. J'essaie de trouver un exemple. Exemple, voilà, par exemple, cette formule ici, ce tableau, bah, je veux l'exporter à un endroit précis, mais sans sortir du document. Et bah, avec une automatisation, bah, je pourrais dire, bah, voilà, maintenant que ma table elle est prête, moi j'ai un outil qui me permet de déclencher, donc un bouton, par exemple. Dès que j'appuie sur ce bouton, bah, je veux que l'automatisation se lance et m'envoie tout ce contenu dans une table archive, par exemple. Tu vois? Donc ça fait partie des choses facilement faisables. Et un truc aussi que j'aime bien, c'est les statistiques. Pourquoi? Parce que quand tu es en version gratuite, justement, tu as un petit décompte qui te permet de savoir exactement où tu en es. Parce que des fois, tu ne fais pas attention, tu crées, tu prends du plaisir à faire ce que tu fais et tu ne te rends pas forcément compte que bah, tu es déjà presque à la limite de ton forfait gratuit. Et là, tu te sens frustré, tu vois. Moi, je sais que ça me frustrerait énormément de me dire qu'il me reste, par exemple, que deux automatisations. Admettons, tu vois. Et ça, avec cette option, ben, ça te permet de garder un œil sur tes limites aussi et de te dire, ah oui, mais moi, je suis limité, là, ça ne me va pas, ben, je vais passer au plan suivant, quoi, tu vois. Donc ça, c'est un truc vraiment intéressant. Et puis, tu peux jouer pas mal aussi. Hein. Il y a des choses amusantes à faire. Ici, moi, je m'étais amusé pour mes débuts, hein, c'est vraiment au début, à créer cette petite table d'emoji qui fait, parce qu'avant, il n'y avait pas les progress bars comme aujourd'hui. Donc, comme aujourd'hui, si tu veux, la progress bar. Elle est un peu différente et plus esthétique. Donc, c'est vraiment une barre, quoi. C'est vraiment une barre qui progresse, sur laquelle tu peux ajouter une couleur, etc., en fonction de tes besoins. Et ça, c'est vraiment génial. Avant, tu devais un peu chipoter, tu devais créer des formules comme celle-ci avec le switch if. Donc, pour traduire un peu ce que ça dit, c'est. J'essaie de trouver les mots simples, hein, c'est pas évident. Si je fais quelque chose, tu fais ça. Mais si ça, c'est ça correspond pas à telle valeur, bah, tu me fais ça. En gros, en fonction du nombre d'émoticônes ici, d'émojis, bah, j'aurai une valeur qui est associée. Ici, c'est le 1. Si j'avance avec le 1, bah, j'aurai 2. Mais tu vas voir que ça a fait évoluer également ma progress bar. Tu vois? Donc ça, c'est un petit truc assez amusant à faire. Et c'est tout simple à faire. Hein. C'est une formule vraiment toute bête. Je n'appelle même pas ça une formule en soi, puisque derrière, ce n'est pas toi qui l'écris réellement. Tu fais juste une relation directe en fait avec le slider. Donc tu dis que le slider interagit en gros avec ta barre de progression, avec ta colonne de barre de progression. Et ça, tu peux jouer avec plein de possibilités derrière, quoi. C'est juste la folie. D'ailleurs, en termes de barre de progression, je m'étais amusé à en faire un paquet au début parce que bah, tu cherches évidemment des choses de plus en plus poussées, de plus en plus techniques. Et là, il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi vraiment s'amuser. Et en fonction de tes besoins, bah, forcément, tu peux en mettre en place une ou l'autre et ainsi de suite. Hein, tu vois, par exemple, ce tableau aussi, en fonction du code couleur, etc., déjà, il met la couleur en fonction du pourcentage que tu lui mets dans la complétion, etc. Donc, tu peux vraiment atteindre une personnalisation assez conséquente derrière. Tu peux même jouer avec la hauteur et la largeur de ta barre. Hein. Donc, tu vois, tu peux avoir des grosses barres, des barres toutes fines, etc. Enfin, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Et c'est des choses assez simples à prendre en main. Tu vois, là, elle est toute fine, quoi. Tu la vois quasiment pas. Donc voilà, et ça c'est vraiment un slider. En plus maintenant ils ont rajouté le mode collaboratif, donc ça permet de donner la possibilité aux gens de modifier aussi un peu selon leur goût. Quand tu fais un document universel et que tu as envie d'avoir un truc un peu plus personnalisé pour toi, ben tu peux le modifier assez facilement et rajouter ben, les valeurs que tu veux, quoi. Donc voilà, ici, par exemple, celui-ci, attends, il est où? Voilà, la barre se remplit en fonction de l'objectif rempli. Donc plus tu coches, bah, plus ça se remplit. Donc ça aussi, c'est un truc assez simple à mettre en place. Et pour commencer, d'ailleurs, c'est vraiment un exercice intéressant à faire. Donc comme je disais aussi, tu peux l'utiliser comme bookmark, hein, donc avec l'extension du navigateur, tu peux, quand tu es sur un site, ben, stocker dans ta base de données. Ben, les sites web, au lieu de toujours stocker tout dans ton navigateur, ben, parfois ben, c'est bien aussi de stocker les choses un peu plus importantes que tu veux vraiment retrouver très facilement dans un compartiment dédié à ça, donc une table, une base de données pour ça, quoi. Pareil pour les chaînes YouTube, hein, comme je disais tout à l'heure. Moi, les chaînes qui sont dédiées à l'apprentissage de ce que je suis actuellement, bah, je les stocke ici. Comme ça, je ne vais pas chercher YouTube, mon historique, etc. Ou je ne crée pas un dossier spécialement pour ça, alors que je n'ai pas vraiment besoin. Donc, voilà. C'est comme ça que moi, je travaille avec Coda. Donc, il me sert de support. Et franchement, tu peux aller très, très loin avec. Tu vois, ici, tu fais de belles structures, de belles mises en page qui donnent envie de cliquer. Tu vois, quand tu vois un aspect comme ça, HTML, PHP, peu importe, on s'en fout du sujet, mais c'est vraiment l'aspect modulable. Donc, tu peux vraiment mettre des images à ton goût, etc., faire ce que tu veux, quoi. Et dedans, bah, ensuite, tu remplis ton document et tu crées ton cours, quoi, en quelque sorte. Moi, c'est comme ça que je travaille avec et ça m'a permis vraiment d'évoluer assez rapidement dans ce domaine grâce à une bonne structure comme ça, quoi. Voilà, voilà. Maintenant, si on en revient sur le côté un peu plus pratique, hein, parce que la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux. Tu peux faire énormément de choses. Si je crée une table, par exemple, utilisateur, je dis une table, il faut la nommer hein, avant, c'est mieux. Donc, tu fais une table blanche. Donc, ça apparaît comme ceci. Donc, tu as une première table, une première base de données, si tu veux. Et tu la nommes comme tu veux. Donc, je vais mettre users, par exemple. Donc, tu mets un nom. On va mettre Titi, Toto, Tata. Ah, je suis fort respiré. Hein. Et puis, ici, tu peux mettre les noms de famille. Là, je ne suis pas du tout respiré. Si tu as des idées, je prends. Mais enfin, bref, on va mettre hello. Moi, les noms, non, c'est une catastrophe, quoi. Enfin, tu mets blabla, voilà. Hein. Et alors, ensuite, dans la troisième colonne, au lieu d'avoir tout ça séparé, bah, tu peux dire que tu fais, en fait, une petite formule qui va additionner les deux, en quelque sorte. Donc, tu vas dire que tu concatènes, donc tu additionnes, en quelque sorte, bah, name, d'accord. Là, tu prends la première table, et ce qui est bien, c'est que ça te le met en évidence, donc en vert, et tu fais... tu fais plus non, voilà. Et alors ici, le problème, c'est quoi? C'est qu'ils sont collés. Et donc, pour éviter qu'ils soient collés, il y a une autre possibilité de rajouter, donc, comme ceci, avec un espace. Voilà, donc tu concatènes, donc tu fais plus, espace. Puisque entre double code comme ça, c'est comme si tu n'avais rien en quelque sorte. Mais quand tu les écartes, c'est un espace. Puis le nom. Et donc, ça te donne le nom de famille avec le prénom dans une seule colonne. Ensuite, bah, tu peux cacher, si tu veux, les colonnes qui ne te servent plus, tu vois. Et alors là, tu te retrouves tout de suite avec une table beaucoup plus lisible avec le nom et le prénom. Ensuite, bah, tu fais ce que tu veux, hein, tu rajoutes ce que tu veux. Donc là, ça, j'ai un peu supprimé. Je vais rajouter, par exemple, le numéro de téléphone. Alors là, pour les numéros de téléphone, c'est un peu particulier, c'est considéré comme texte. Mais voilà, quand on s'y fait vite, donc là, tu rajoutes un numéro, hein, on s'en fout, n'importe lequel. Et puis voilà, tu peux ensuite faire des relations avec une autre table. Je vais appeler ça, je ne sais pas moi, compagnie, par exemple. Compagnie. Et alors, bah, tu fais une relation, en fait, avec les employés. Tu vas aller chercher la table en question, donc avec un lookup, colonne type lookup. Et là, qu'est-ce que je veux? Ben moi, je veux les users. Et donc, ici, dans les users, maintenant, je peux aller chercher Titi, Toto, Tata, sans toucher à la table principale. Donc, je peux rajouter autant d'utilisateurs que je veux. J'aurai peut-être 300, 600 utilisateurs, je ne sais pas, peu importe. Mais sur la vue que je veux utiliser juste pour la société, ben, je pourrais dire que voilà, moi ici, j'ai ma liste d'utilisateurs et je mets le projet d'une personne à tel utilisateur et ainsi de suite. Tu peux vraiment aller très très loin dans les projets que tu veux mettre en place. Ici, tu pourrais créer, par exemple, si je veux rajouter le mail. Donc là, je vais créer le mail. Alors, du coup, voilà. Et là, je vais rajouter le mail Titi. Si je l'écrivais mieux, ce serait bien aussi. Désolé. J'ai un nouveau clavier, j'ai un peu de mal à m'y faire. titi@gmail.com. Okay. Donc ça, c'est ma table principale. Et là, je peux faire, encore une fois, ben, une relation avec cette partie-là, quoi. Alors ici, il y a une petite subtilité. Vu que c'est la même table, on ne passe pas tout à fait comme ça. Donc, on passe par le lookup directement. Et dans les extensions de la table, ben, je peux aller chercher le mail en question. Quoi. Hop. Normalement, alors pourquoi est-ce qu'il ne me l'a pas pris comme ça? C'est toujours quand tu me montres que ça déconne un peu. Alors, si je fais un lookup de user. Hop. Ah, tu n'étais pas descendu assez bas. Voilà, je me disais bien aussi que j'avais fait une bêtise. Si on ne scrolle pas. Ça ne va pas. Oui, évidemment, puisque j'ai pris la relation ici, si tu effaces la colonne 3, vu que je suis parti du lookup que j'ai fait sur cette colonne-ci, si tu l'effaces, évidemment, ça ne peut plus fonctionner, quoi. Et donc, ça te crée des relations comme ça, avec des points de vue différents. Et en fonction de ce que tu as besoin, tu peux aussi créer un filtre. Hein. Tu peux dire, par exemple, moi, je veux filtrer par utilisateur. Donc là, je vais créer un filtre. Je vais créer un contrôle. Et là, tu choisis par qui tu veux. Si je veux, par exemple, donc j'ai dit clear. Là, je veux juste Titi. Ben voilà, tu vois, tu as une vue personnalisée en fonction de l'utilisateur. Et ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant parce que tu peux bloquer, entre guillemets, cette vue et la donner à l'utilisateur en question. Et lui dire, ben, voilà, toi, tes tâches, elles sont là. Maintenant, tu peux aller les récupérer et travailler dessus. Et du coup, ben, tu pars sur un système d'OQR et tu peux donner des tâches à ton équipe très facilement comme ça et communiquer avec eux comme ça. Voilà, voilà. Donc, des questions ?
Ouais, tu avais une petite question qui, pas directement, on va dire, sur l'aspect codage, c'est plutôt, donc, HK qui pose, niveau utilisation de la RAM, de ton expérience, c'est pas trop lourd, puisque vu que ça se fait au travers du navigateur, ouais. Est-ce que du coup, voilà.
Non, alors, honnêtement, et pourtant, j'ai des projets qui sont lourds, hein. Ici, je suis sur le projet communautaire. Là, je vais prendre le wiki. Ici, rien que pour te donner, par exemple, en termes de formules, je crois qu'il y en a 187, quelque chose comme ça. Je n'ai plus les chiffres en tête. Tu peux aller à plusieurs milliers de lignes sans aucun problème avant de commencer à sentir un ralentissement. Maintenant, il est vrai qu'en fonction de ce que va contenir ta base de données ou ta table, si tu as beaucoup de formules à calculer, ça va potentiellement commencer à être long au niveau du chargement. Mais vraiment seulement au niveau du chargement, la première fois que tu vas afficher la page. Et après, ça ira tout seul. Mais quand tu es conscient de ça, quand tu fais des documents aussi importants, avec 4000, 5000, 10000 lignes, tu structures tes bases un peu différemment. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qui se fait en forme formule, calcul, tu lui donnes une valeur à côté, une value en texte. D'accord ? Donc, tu prends le résultat de ce calcul et tu le mets dans une colonne séparée. Et du coup, tu caches la colonne qui va calculer, ce qui va limiter le chargement en fait. Donc, ton document sera plus léger et tu éviteras ce phénomène de lag dû à une table mal structuré. Et ça, c'est quelque chose qui est important de prendre en compte, c'est que quand tu conçois un document comme celui-ci, il faut vraiment anticiper son utilisation. Pas te dire, ouais, moi, je vais avancer à l'aveugle, je vais aller au fur et à mesure. Non. D'ailleurs, c'est un petit conseil que je vous donne. Prenez le temps de vous poser, réfléchir vraiment à ce que vous voulez obtenir comme résultat. Parce que si vous allez à l'aveugle, vous allez revenir d'abord 10 fois sur un problème qui aurait pu être résolu si vous l'avez mis sur brouillon avant, par exemple, et vous allez vous rendre dingue parce que vous avez créé des choses qui n'ont pas lieu d'être ou mal les rendre interactives, donc bidirectionnelles, et vous n'allez pas vous y retrouver. Donc il faut vraiment prendre le temps d'analyser, vraiment. Moi ici, par exemple, avec le wiki, bah, j'avais fait l'erreur au début de faire comme ça, justement. Et c'est mon premier wiki, donc je ne savais pas trop comment le faire. Et j'avais créé toutes mes tables, etc. C'était pas structuré, c'était pas propre. On ne savait pas vers quoi aller exactement. Et du coup, bah, ici, le résultat final, quand tu caches la partie technique, bah, il reste déjà plus que ça, quoi. Tu vois ? Donc, tu limites vraiment grandement l'utilisation de tes tables. Et surtout que les gens aillent saboter un peu ton travail derrière, parce que des gens qui n'ont pas l'habitude, bah, ils vont vouloir toucher à tel ou tel élément. Et si tu leur donnes les droits en fonction, bah, même si ce n'est pas intentionnel derrière, bah, tu peux casser un document vite fait. Alors qu'ici, en structurant un peu différemment, en donnant des droits en fonction des documents, parce que ici, comme tu vois, moi, j'ai, avec le plan équipe, j'ai l'avantage de pouvoir structurer en fonction des droits que je donne par page. Il y a des pages où tu as juste le droit de lire, par exemple. Tu mets en read-only et tu lis le document et c'est tout. Hein, si je donne, par exemple, celui... alors, je fais un hide. Donc, au niveau... Hop. Au niveau technique, ces documents-ci, tu vois, ils sont en read-only. Pourquoi ? Parce que ce sont des documents réservés à tout ce qui est modérateur, utilisateur avancé. Et ça, c'est important de le préparer à l'avance, parce que sinon, bah, tu vas te retrouver avec des tables qui sont accessibles à tout le monde. Et du coup, bah, tu as des gens qui ne sont pas qualifiés, qui vont se dire modérateur, parce qu'ils ont été dans la petite table ici, en disant « ouais, moi, je suis un utilisateur avancé, par exemple ». Hein, donc, je vais changer, je vais mettre mon nom ici et voilà, ce sera facile à changer. Donc, voilà comment moi, je travaille. Donc, je crée mes tables de référence et puis je les importe. Je fais des look-up, des relations en fonction de mes besoins. D'ailleurs, ici, je fais un hide. Et donc, comme tu vois, hein, comme je te disais, ici, tu relis en fonction de vraiment tes besoins, quoi. Tu peux aller très, 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 très loin dans les possibilités que t'offre ce logiciel. Il n'y a pas de limite, en fait. C'est juste ta créativité qui sera une limite. Après, il y a aussi l'aspect technique qui commence à devenir plus difficile. Mais là, la communauté est là derrière. Il y a des gens très compétents qui sont là pour répondre. Plus tu vas progresser. Donc ça, c'est cool aussi. Vas-y, Cap, je t'écoute.
Ouais, petite question par rapport. Là, on est d'accord qu'on est actuellement donc, dans l'outil, dans Coda,
avec tout à fait.
La connexion à ton compte.
Ouais.
Imaginons que tu en fais un truc ultra simple, que tu dis, par exemple, là, tu étais en train de travailler sur une petite base de données, tu dis ouais. Que tu veux la publier sous forme, par exemple, de page web, et on imagine vraiment le truc le plus simple. Si tu le publies, ça veut dire que c'est une publication qui se fait vraiment accessible à tout public, c'est-à-dire accessible à quelqu'un qui n'a pas un compte Coda et qui serait comme un simple site web que tu ferais vraiment classiquement, ou est-ce qu'il faut impérativement avoir, en fait, pour accéder, un compte Coda
C'est une très bonne question. Alors, c'est ça qui est bien, c'est que Coda permet justement de définir ce que tu veux vraiment. Donc ici, quand tu es en mode publication, tu as Sign Up Modal, qui permet de dire que tu dois être ou non utilisateur Coda pour pouvoir accéder à cette page. Si tu n'es pas enregistré, tu ne pourras pas l'utiliser. Donc ça, c'est vraiment une des forces justement de ce système. Donc là, je publie, hein, mon document il est publié, et tu vois bien que j'ai coché donc les options qui permettent de, je ne vais pas dire protéger, mais en tout cas de limiter l'accès. Pardon, excuse-moi, à n'importe qui sur ce document. Quoi. Je veux vraiment que la personne qui va utiliser ce document soit une personne qui a un intérêt derrière. Tu vois, pas juste dire ouais, moi je viens sur ton document, imagine j'ai fait l'erreur, j'étais distrait, je l'ai mis en edit. Bah, ça veut dire que toi, demain, si tu vas sur ce lien-là, tu trouves par X ou Y moyen, peu importe, eh bah, tu peux dire moi, son projet, je vais lui casser. Ou lui voler, ben, je ne pourrais rien faire. Quoi, tu vois. Alors qu'ici, en limitant, ben, déjà, ben, je sais que si j'ai un problème, c'est d'office un utilisateur de Coda, quoi qu'il arrive. Donc là, je peux me retourner vers le support et dire, écoute, voilà, il y a eu un problème. Et encore même là, même si j'ai un problème à ce niveau-là, il y a donc la possibilité d'aller vers l'historique qui est illimité ici. en version plan d'équipe. Donc, tu peux remonter aussi loin que tu veux. Tu as vraiment tout l'historique de tout ce que tu as fait sur ton espace depuis que tu es passé à ce plan-là. Donc, tu peux revenir en arrière en disant, bah, voilà, écoute, t'as foutu la merde sur mon document. Tel jour, telle heure, je sais que ça ne fonctionnait plus. Bah, moi, je reviens en arrière, je vais chercher le document et je remets tout comme ça était sans que je ne sois pénalisé. Donc, ça aussi, c'est une sécurité très importante.
Ça fait penser justement à une autre question que je t'avais moi posée un peu en off. Voilà, le cadre de la sauvegarde, c'est-à-dire que là, tout ce que tu as fait comme travail, imaginons, là, tu as toujours parlé, on reprend l'exemple de la base de données, deux choses. Soit tu as le cas de quelqu'un qui vient te hacker, bref, qui te détruit en gros, qui écrase ton boulot, ou tout simplement, imaginons le truc encore plus embêtant, tu te fais bannir de, je ne sais pas, pour X raison, tu te fais bannir du site. Quid de ce que tu as fait et est-ce que tu peux nous montrer rapidement de voilà comment on sauvegarde, enfin comment tu sauvegardes et s'il y a possibilité.
Alors, tu peux en effet récupérer tes données. Donc, tu vas dans la petite fenêtre ici à droite, donc dans les options. Donc, tu cliques ici sur la petite roue crantée. Ça t'ouvre donc le panel sur le côté. Puis là où il y a ton icône, tu cliques dessus et puis tu as trois petits points. Alors, c'est vrai que c'est pas pratique d'accès, parce qu'il faut le savoir, mais tu as tout, en fait, tu as tes paramètres de compte, ton profil, ton statut, tes stats, par exemple. Donc ça aussi, c'est bien, quand tu publies un document, tu as des statistiques, donc c'est bien pour savoir aussi... Oui, je peux montrer comment on publie, juste après. et donc, imaginons en effet que ça se passe pas bien, et là, tu vas dans tes settings personnels, et tout en bas, alors il faut aller dans le Advanced. Hop. Là tu peux exporter tes données, d'accord, et ou delete ton compte si toi tu dis moi Coda ça ne m'intéresse plus, c'est trop cher ou que sais-je, ou ça ne correspond plus à tes attentes, tu peux delete ton compte aussi sans problème, quoi. Donc ça fait partie des choses qui sont en place et qui sont possibles. Donc là tu cliques sur export et il t'envoie un lien en fait où tu as 15 minutes pour télécharger ton fichier. Donc voilà, il faut le faire tout de suite, hein, parce que sinon ça sert un peu à rien. Donc voilà, à ce niveau-là, franchement, c'est très très bien foutu, c'est très bien structuré. Tu retrouves assez facilement les infos que tu veux, etc. Voilà, par exemple, la dernière fois que tu as modifié ton password, ben, il y a 140 jours, par exemple, ben, voilà. Il y a aussi la double authentification. Donc ça aussi, ça fait partie de la sécurité de ton compte. Donc pour te faire hacker, déjà, il faut y aller, quoi. Il faut aller un cran au-dessus, quoi. C'est pas n'importe qui pourra te voler ton compte, normalement. Donc voilà. Et alors pour la publication, pour répondre à HK, donc imagine, donc ici, tu as fini ton document. Donc voilà, ici, mon wiki est prêt à être publié. Donc tu vas sur Share, en haut à droite. D'accord ? Donc, tu as plusieurs façons, tu as plusieurs solutions de publication entre guillemets. Tu as le partage en soi, c'est-à-dire que tu veux partager uniquement avec quelqu'un. Donc là, tu peux définir son niveau. Donc tu peux le mettre soit en view, soit en seulement commenter, soit en edit, ou pas d'accès du tout. Il peut juste ne pas y accéder. Donc tu peux définir les niveaux assez facilement. Mais imaginons, tu travailles en équipe, tu le mets en edit et tu copies le lien. D'accord, tu envoies ce lien à la personne. Ça, c'est la première façon de faire. La deuxième façon, c'est que tu es sur un forum, comme ici, hein, le forum Coda. Si je reprends... je vais essayer de retrouver... évidemment, c'est en anglais, si je mets Wiki. Enfin, peu importe, n'importe lequel. Alors, ça tombe bien, justement... Et donc, quand tu fais un embed, donc un partage sur le forum, ça ressemble à ceci. Et là, tu as vraiment la possibilité de partager ton document avec la communauté. D'ailleurs, c'est ce qu'on recommande à tous les utilisateurs. Quand vous avez une question, un problème avec un document, c'est de faire comme je vous ai montré ici. Il faut que je retrouve la bonne page, du coup. Voilà. Tu fais donc ton embed. Donc, tu peux pré-visualiser. Je vais y arriver. Désolé pour les bafouillements. Et là, tu peux partager ton document avec la communauté et dire, voilà, moi, j'ai un problème là, est-ce que tu peux regarder, etc. Troisième possibilité, là, c'est la publication vraiment pour la communauté, donc pour la galerie, pour tout le monde. Et là, tu vas sur Published. Enfin, il ne sera pas Published à ce moment-là, il sera publié. Donc, tu as un lien ici qui te sera donné. Tu peux mettre un lien personnalisé si tu as un nom de domaine. Donc, si tu as un nom de domaine, tu peux mettre ton nom de domaine. Donc, ça fonctionne. Et ensuite, bah, tu définis les paramètres en fonction, donc la catégorie, etc., où tu veux que ça soit publié. Et tu donnes les possibilités d'interaction en fonction, de, encore une fois, de ce que tu veux faire avec ce document. Donc là, si tu veux que ça soit un site web à part entière, bah, tu devras le mettre selon l'interaction voulue. Tu devras le mettre en edit probablement, quoi, tu vois. Mais tu peux exiger quand même que ça soit que des personnes qui ont un compte Coda, pour éviter que justement tu ne tombes sur des gens lambda qui viennent détruire ton travail. Sinon, tu mets sur Play, et alors une fois que tu es sur Play, en fait, ça te met un bouton Copy to Doc, etc. Comme ici, donc Copy Doc. Et comme ça, tu ne peux pas, en fait, tu peux pas modifier la structure du document. Et là, c'est comme un site web. Ça réagit comme un site web. Donc, c'est vraiment génial. D'ailleurs, si je te donne le lien, ici, il est mis, voilà, bienvenue sur le wiki avec mon nom. Mais quand ce sera, par exemple, CAP, bah, ça mettra bienvenue hashtag CAP, par exemple, tu vois, ou HK, etc. Donc, il y a plein de trucs vraiment géniaux sur Coda à ce niveau-là, qui sont assez, assez poussés et assez faciles à mettre en place. Alors, par exemple, j'ai mis la time zone automatique. Donc, ça te dit, par exemple, si tu es en France, aux États-Unis, etc., ça te donne vraiment la time zone, etc. Il y a plein de choses comme ça amusantes à mettre en place. Donc voilà, HK, d'autres questions ? Ou c'est clair ? Ou pas clair ? C'est clair, tant mieux. Donc voilà. Ah oui, et aussi un petit truc, parfois vous avez besoin d'aller dans des options un peu plus avancées pour le support Coda. Donc on peut vous demander aussi éventuellement d'activer le partage avec le support. Donc, si on te dit, voilà, HK, ton document, on ne comprend pas, est-ce que tu peux nous partager son accès ? Eh bien, il faut que tu coches le share ici avec le support, ce qui leur permet de travailler avec toi sur le document sans devoir passer par un lien derrière, quoi. Donc, vraiment, tu peux aller très loin dans le niveau de permission, etc. Donc, ça, c'est cool. Et une petite astuce qu'il faut savoir aussi, c'est quand vous faites un document en termes de partage, il faut l'isoler. Parce que si vous partagez un document complet, par exemple, si je partage celui-ci et que je ne veux alors partager que la présentation Coda, eh bien, ça va me partager tout le document. Ceci, en fait, ce n'est qu'un seul document. D'accord ? Considérez ça comme une grosse boîte dans laquelle vous avez mis tous vos fichiers. C'est en gros, si tu veux, tu as un meuble avec tes archives, et dedans, bah, tu as des tiroirs, et les tiroirs contiennent des dossiers. Bref, tu penses ça comme ça. Donc, quand tu partages ton meuble, bah, tu partages toutes tes informations avec. Donc, il faut faire attention à ça. Et donc, la solution, c'est de copier cette partie-là dans un autre document. Donc, tu fais copy to doc, et tu peux créer un nouveau document et le mettre dans le dossier que tu veux, etc. à ce moment-là. Et après, tu peux partager comme je t'ai montré. Ça, c'est une chose à laquelle il faut penser, parce que sinon, bah, vous donnez accès à n'importe qui. Donc voilà. D'autres questions ? Bon, je vois HK écrire. Contact support to request additional quota. Ouais, aussi, ouais. Ouais, ça, quand tu dépasses ton quota, c'est clair. Et c'est pour ça que je disais qu'à un moment donné, bah, tu n'as pas le choix, il faut passer à la formule au-dessus. Hein. Quand tu atteins une certaine limite en gratuit. Ouais, mais ici, en fait, c'est comme je disais, hein, tu as les limites. Donc, tu vas dans les options. Donc là, je suis en gratuit. Hein, et tu le vois ici directement dans statistiques. C'est pour ça que j'ai pris le document en version gratuite aussi. Donc là, j'ai le nombre de tables et de vues, le nombre de boutons de contrôle, les pages, les formules, et tu as droit à 1 giga de médias, donc de fichiers, images, etc., tout confondu, en termes de volume de stockage sur cet espace-là. Donc c'est ça ici, mais en plus c'est clair, quoi, j'ai 16% du doc size utilisé. Donc c'est déjà pas mal, alors que j'ai pas fait grand-chose. Mais au moins tu as le visuel directement, quoi. Et ça c'est cool. Other question? Gatsby? Les autres? Parce qu'on n'entend pas les autres parler, hein, ils se cachent. Hein. Pralie, là, elle ne parle pas beaucoup. Même pas du tout, d'ailleurs.
Non, parce qu'habituellement, on en profite. C'est moi qui fais l'office de remonter des infos. Mais après, comme on n'est pas nombreux, éventuellement, si vous voulez poser les questions, vous n'hésitez pas.
Oh, oui, c'est ça. Alors oui, je l'utilise en team. En team, parce qu'en fait, donc ici, je travaille avec un gars que j'ai rencontré justement sur le forum Coda, qui me forme en même temps. Donc, je travaille en équipe avec lui et on communique pas mal. Tu as vu une bonne plus-value? Oui. Bah oui, en termes de rentabilité, etc. Bah, au lieu de courir et d'ouvrir ta boîte mail, d'aller voir ton mail, d'envoyer un message, moi j'utilise Slack, d'ouvrir Slack, d'avoir 36 fenêtres ouvertes, etc. En fait, t'en as qu'une d'ouverte et puis tu travailles comme ça, quoi. Ici, par exemple, moi j'ai créé avec mon pote une table de communication. Donc, quand j'ai quelque chose à lui demander, ben je clique sur le bouton feedback, qui est une formule un peu complexe avec du format, etc. Qui me permet en fait de lui laisser en fonction des utilisateurs ici un message, et quand il l'a lu, il valide et ça me marque que ça a été lu, et donc ça c'est une façon de communiquer aussi. Et puis tu peux aussi utiliser Google Meet au travers, etc. Donc tu as plein de... vraiment, je veux dire, en termes de possibilités de travail d'équipe, c'est illimité, quoi. Tu peux utiliser Zoom, hein, si tu veux, tu installes Zoom tout simplement. Ouais, ta zone admin, ta Zoom, etc. Tu peux l'installer dans ton document et puis lancer des conférences comme ça. Hein. C'est vraiment, je te dis, c'est illimité, quoi. Et encore mieux que ça, si tu ne trouves pas ton bonheur et que tu sais coder un petit peu en JavaScript, parce qu'il faut savoir que autant Notion que Coda, c'est du JavaScript derrière, tu peux faire tes propres packs et il y a une... Il y a une structure vraiment qui te permet de travailler avec une équipe derrière quelque part, tu vois, qui t'aide à apprendre la conception de pack Coda. Et donc, tu peux concevoir le pack dont tu as besoin, si tu sais le faire. Et si tu ne sais pas le faire, il y a des gens dans la communauté qui sont prêts à le faire. Évidemment, au moyen en finance, évidemment, mais il y a toujours une solution, quoi. Toujours, toujours. J'ai pas aujourd'hui, je n'ai pas rencontré un seul message sur le forum disant je suis bloqué parce que j'ai pas tel ou tel outil ou telle option. Et quand il n'y a pas une solution directe, tu as toujours des gens un peu plus compétents, avec de grosses compétences, qui sont là pour te donner des alternatives derrière, quoi. Oui, bien sûr, tu peux créer. La création de pack n'est pas dédiée au plan payant. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est bien, quoi. Tout le monde peut créer son pack parce que derrière, en fait, il y a une vérification du travail, quoi. Tu peux pas publier ton produit comme ça, par exemple avec, je sais pas moi, un accès caché, etc. Non, ça c'est pas possible. Il y a une structure de vérification derrière qui permet d'éviter tout problème. D'où le fait que tu peux le faire en mode gratuit aussi. Mais ça, pour le moment, moi, je ne suis pas capable de le faire. J'ai regardé, j'ai un petit peu creusé le sujet, mais je ne me suis pas encore lancé dans la conception de pack. Parce que ce n'est pas encore dans mes capacités techniques. Même si j'ai un background dans le langage Python, etc., mais en JavaScript, pas encore, quoi. Là-dedans, c'est un peu limite, quoi. Mais tu peux dédier ça, cette tâche, à quelqu'un de la communauté sans aucun problème. Et puis, comme je te dis, hein, des packs, tu en as des dizaines et des dizaines. Hein. Tu peux même faire la crypto, du FedEx, Figma, GitHub, GitLab. Enfin, voilà, quoi. Tu vois, tu as vraiment une liste énorme de possibilités. Ah, tu peux même faire de la traduction Google, hein, directement ici dans ton doc. Du Search, du Translate, du Workspace Directory, Jira pour ceux qui connaissent. Enfin, on ne dit pas la texte, on dit... j'oublie pas comment on le prononce, celui-là.
La tech.
La tech, merci. Du Shopify, du Unsplash, UPS, Wikipédia aussi. Hein, ceux qui travaillent beaucoup avec Wikipédia, récupérer des plus d'information directement. Ce serait pratique. Il y a vraiment énormément de possibilités. Et si là-dedans, tu n'arrives pas à trouver encore ton bonheur, bah, tu crées ton pack. Il y a toujours quelqu'un pour le faire. Toujours. Si ton document est axé, par exemple, je sais pas moi, sur la gestion de stock et que le pack qui est là ne te convient pas, bah, tu peux écrire aussi à la personne qui a conçu le pack. Lui dire, écoute, tu ne sauras pas ajouter une option ou quoi. Si c'est oui, tant mieux. Si c'est non, bah, c'est pas grave. Bah, tu commandes un autre pack. Hein. Mais en général, ils sont ouverts. Ils sont assez ouverts à la conversation, au partage, etc. C'est ce qui fait la force de Coda. Hein. Malgré sa jeunesse, la communauté est assez importante. Il n'y a pas un jour où tu n'as pas une réponse à une question, quoi. Tout simplement. Et puis c'est bien structuré. C'est vraiment bien structuré. Tu ne cherches pas midi à 14h sur la page en disant « Ouais, mais merde, moi, je ne trouve pas une information. » En plus, je ne parle pas bien anglais, donc je ne sais pas quel terme utiliser. Franchement, c'est assez facile de trouver. Puis tu peux faire des suggestions. Hein, justement, si tu as besoin de telle ou telle option. Moi, par exemple, je sais que ce que je trouve manquant dans Coda, c'est le fait d'avoir les fonctions rappel. Tu sais, quand tu programmes dans ta to-do list une activité, tu mets une certaine heure et tu aimerais bien d'être rappelé une heure avant, comme dans Google Calendar, par exemple, que tu dois faire telle ou telle tâche. Ça, nativement, il n'est pas dans Coda. Donc, c'est des choses qui manquent un petit peu. Mais tu pourrais faire la demande et puis en fonction du nombre de votes, bah, il va rentrer dans la liste des choses à faire pour la société. Et en fonction de ça, bah, tu as des chances de faire développer cette option en plus, quoi. Alors, passer en vue les formules que tu as utilisées. Oh là! Alors, les formules, il y en a un paquet. Hein. Si je dois te les lister. Alors, justement, là, j'avais prévu le coup dans mon document. Moi, quand j'ai créé ce doc, je me suis dit qu'en effet, il serait utile de regrouper les formules utilisées et d'essayer de présenter un petit peu leurs fonctionnalités et leurs difficultés aussi. Donc ici, c'est les niveaux débutants. D'où le nom, hein, formule niveau débutant. Et en fonction de la formule que j'insère dans son nom, bah, je mets une petite description ici. Par exemple, le find ici me permet, si je veux, par exemple, je vais rajouter une colonne. Et dessus, je veux que ça soit une rangée avec un numéro auto-incrémenté. D'accord ? Bah, qu'est-ce que je fais ? Je vais rajouter une formule. Et je vais me dire que dans cette table, je vais taper donc this table, donc cette table. Qu'est-ce que je veux ? Ben, je veux qu'elle me cherche toutes les lignes. Donc, je vais taper .find. Donc, en plus, tu as une autocomplétion, donc ça, c'est assez cool. Et qu'est-ce que je veux ? Où est-ce que je veux avoir l'information ? Ben, je la veux dans cette colonne. Donc, this row. D'accord ? Donc, this row. Et si je fais entrée, eh bien, tu vois que ici, j'ai toutes mes lignes numérotées. D'accord ? Donc ça, c'est des formules qui sont vraiment pratiques à utiliser et à connaître d'ailleurs. Elles font partie des formules que j'utilise très régulièrement. Et derrière ça, l'avantage de ces formules-là aussi, c'est qu'en termes de colorisation de conditionnel format, c'est que tu peux utiliser cette colonne pour donner un aspect différent. Par exemple, je ne sais pas moi, je vais prendre contents. Non. Qu'est-ce que je vais mettre It's not blank, par exemple. Je vais dire que je prends le nom de la formule. Voilà. Et je veux dire que je veux qu'elles apparaissent dans une couleur quelconque. Je ne sais pas, ouais, je vais prendre un truc. Mettre un petit gris, comme ça. Hop. Voilà. Et je veux que le texte à côté soit d'un gris un peu plus clair, par exemple, ou carrément en noir plus foncé. Donc, c'est grâce à ce genre de structure que tu peux travailler plus facilement sur la mise en forme de ton document. Alors, les données Praly sont stockées sur le cloud, d'accord ? Donc, tu as un espace réservé sur leur cloud. Et donc, elles sont sécurisées. Par leur serveur, quoi. En gros. Ça, c'est le de toutes les applications en ligne, hein, qui, toutes les applications cloud, c'est la même chose. Hein. Voilà, pour ma part, je pense avoir fait un tour assez basique du sujet. Maintenant, si vous avez d'autres questions un peu plus poussées ou quoi, auxquelles vous voulez une réponse.
Justement, dans la continuité de la question de Praline, en fait, moi, je pose la question de, imaginons que tu fais un projet qui est sensible au point de vue des données, imaginons des données de santé ou autre.
Ouais.
Coda a-t-il le droit de regarder dessus? Et ce que je te disais, bah, sûrement que oui, puisque forcément, c'est leur infra et leur application. Donc, est-ce que ça, tu sais, tu t'es éventuellement posé la question, tu as regardé peut-être la charte, je n'en sais rien, enfin, c'est pas la charte, les conditions
ouais.
d'utilisation pour le coup.
Alors, j'ai regardé au niveau de sécurité tout ça, et puis, alors, je ne sais plus si c'est à toi, je ne sais plus à qui j'avais passé un document, mais il y a en fait des choses. Alors, il faut que je retrouve, parce que, évidemment, quand tu commences à stocker les informations, t'en mets un peu partout parfois. Alors, attends. Je sais que j'avais creusé le sujet et que j'avais donné à notre ami, je ne retiens jamais son nom, qui avait fait la présentation d'Obsidienne. Donc, il y a en fait une information assez détaillée là-dessus. Laisse-moi juste quelques secondes pour la retrouver parce que je ne sais plus où je l'ai mise. Trust, voilà, normalement c'est celle-là. Et voilà, donc ici tu as les termes, les conditions, etc. Tout ce qui est. Donc, ça, si tu veux, je peux te partager le document ici. Comme ça, tu as toutes les informations. Et tu pourras les partager ensuite pour les autres s'ils veulent. Donc, en effet, il y a pas mal de choses. Et sur la sécurité, justement, il t'explique exactement ce qui est fait en termes d'utilisation de données, etc. Data privacy. Donc, franchement. Il cache rien, quoi. Il n'y a rien de caché, tout est là. Il suffit juste de creuser un petit peu et tout est là. Donc ça, c'est cool aussi. Alors, pour faire une... Vas-y, HK, j'ai un peu du mal à suivre ce que tu me dis. Ah. Sinon, le micro, il est là, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Oups. Désolé pour la. Manque que la traduction, je te l'ai traduit, non? Attends, ici il est en anglais. Tu veux que je te le traduise aussi? Attends, tiens. Voilà, il est en français. Il y a tellement de pages à traduire que je ne saurais pas te les traduire toutes sur une seule vue comme ça. Mais après, si tu veux les afficher en traduite, il faut que tu passes page par page. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à concevoir le wiki multilingue pour aider. Oui, t'écoutes?
Non, vas-y, finis le tracteur. J'allais te poser après une question.
C'est pour aider justement les gens qui ne parlent pas anglais à comprendre un peu plus facilement les formules. Par exemple, ici, ça ne veut pas dire grand-chose pour beaucoup de personnes. Activate, si je te dis à quoi elle sert. Comme ça, tu ne vas pas comprendre si je te le dis en anglais, par exemple. Alors que si je te donne un exemple concret dans ta langue et que je t'explique vraiment comment l'utiliser, ça aura une plus-value beaucoup plus importante, quoi. Et c'est ça, le but derrière ce wiki, c'est justement de venir en aide à la communauté dans la langue de la personne. Attention, moi ici, je ne parle pas bulgare, je ne parle pas néerlandais, ni portugais. Hein, donc, ce sont les gens, en fait, et d'où l'expression communautaire. Qui vont interagir avec le document et rajouter les informations dans leur langue au fur et à mesure. Quoi. Je t'écoute, Cap, pour la suite.
En fait, c'est comme on est proche, on arrive dans les 23 heures, savoir après, est-ce que déjà, je pose la question un peu à tout le monde, est-ce qu'il y a d'autres questions comme ça, ou sinon, vu qu'on, je pense qu'on est quand même plutôt proche de la fin de ce chouette livre blanc, c'est peut-être, est-ce que je pose toujours la question à Praline, c'est parce qu'il y a l'enregistrement derrière. Ouais. Est-ce que tu pourrais peut-être nous faire un petit topo? Alors là, on a vu en gros les points positifs et on va dire les petits points négatifs. En gros, faire un petit topo rapide de l'outil. Juste plus moins de Parce que là, forcément, tu as fait beaucoup de plus, ce qui est logique. Mais
Ah
voilà, de voir quand même qu'il y a quelques petites
ouais, je
zones
t'avais dit,
d'ombre.
si tu me laisses dériver, moi je vais dans tous les sens et je parle de tout dans tous les sens. C'est tellement passionnant, ce sujet est tellement passionnant, prenant. Une fois que tu as commencé en fait et que tu as compris le fonctionnement, tu as du mal à t'en décrocher et ne pas l'utiliser, quoi. Parce que ça regroupe tellement d'outils en un que tu n'as plus besoin de quitter Coda. Tu fais tout dans Coda, ou en tout cas presque tout, parce qu'il y a des choses qui sont encore difficiles à mettre en place. Mais tu peux travailler sans quitter ta page des yeux, limite, quoi.
Et justement, parce que j'allais dire, tu vois, ça c'est mon côté, justement, ça c'est le côté, justement, à la fois du côté positif et à la fois du côté négatif. Parce que d'un côté, tu as tous les outils qui sont avec toi au travers finalement d'un seul site, ce qui est très bien. Mais d'un côté, tu es verrouillé au travers, en fait, de leur outil, au travers, en fait, d'une compréhension, que ce soit par rapport à l'outil de développement, à leur façon de coder. En gros, de ce qu'on voit, c'est que ça, tu as les mécaniques de base qui te permettent de bien comprendre comment un peu tout s'articule,
Tout à
mais
fait.
au final, à leur façon à eux. Ce qui fait que pour quelqu'un qui serait vraiment pur débutant, qui apprend uniquement avec Coda, ça lui donne une bonne mécanique, mais s'il doit partir sur, imaginons, parce qu'il fait le choix, parce que, ou tout simplement, c'était la question précédente, tu as des données sensibles et qu'il faut en gros faire ça sur, par exemple, sur un autre serveur avec une autre façon de fonctionner. Comme tu as été habitué sur cet environnement-là, est-ce que tu es capable finalement, tu vois, de repartir et de rebasculer sur quelque chose, tu vois? C'était ça un peu dans le côté moins, voilà.
Ouais, ben non, c'est pas un moi en soi, parce que comme je t'avais dit la dernière fois, moi, Coda, je le vois comme un outil, rien de plus. C'est un outil qui me permet de faire des tâches. Et ces tâches, elles sont les mêmes, en fait. La seule différence que tu as avec un autre outil, c'est le langage utilisé. Mais la logique derrière est la même. Donc, moi, ça m'a permis d'acquérir une certaine logique de structuration de données, par exemple, de mise en place de documents, etc. Mais ça, tu peux le réutiliser dans n'importe quel logiciel. Donc, même si tu perdais par malheur toutes tes données, au final, tu n'as pas perdu ton temps. Donc, tu pourras recommencer ce que tu as fait sur Notion. Admettons, par exemple, tu dis, moi, j'aime mieux les couleurs de Notion. OK, c'est ton choix. Ben, la logique est la même derrière, quoi. Donc, tes données, tu peux les copier-coller, tu peux les récupérer, donc c'est pas perdu, quoi. Donc, c'est pas un côté négatif en soi. Est-ce que c'est bon pour toi? Ça a répondu à ta question?
Parfait, merci Thierry.
Avec plaisir, hein. Mais il faut pas hésiter. Tu vois, là, par exemple, j'ai pris un document, je sais plus qui me demandait pour voir les templates. Tu en as tellement que je ne peux pas tous te les montrer, mais celui-ci, par exemple, pour les trackers d'activité, etc., les trackers de tâches, il est bien foutu, quoi. Hein, parce que tu as un petit résumé en plus graphique et tout. Ça aussi, c'est une force qu'il a, c'est les graphiques, hein. Quand tu prends les graphismes, tu as énormément de choix. Hein, tu as les pailles, les timelines, les chartes, les aéras, les word cloud, etc. Tu as tout ce qu'il faut pour travailler. Donc, franchement, c'est top, quoi. Top, top, top. Donc, ouais. Ouais, c'est tard. Mais bon, c'est le week-end, non? Ok. Bah, s'il n'y a plus de questions, on peut clôturer là pour moi.
Eh bien, écoute, alors attends, on fait un petit tour de piste. On demande est-ce que justement il y a peut-être d'autres questions rapides, peut-être? Ou sinon, comme dit Prali, est-ce que tu auras un petit mot de la fin avec toi, justement ta conclusion à toi de l'outil ou un petit mot que tu souhaites apporter par
Ouais, je
rapport
peux. Le
à la
mot de la
soirée?
fin, Coda, Coda, Coda. Coda, c'est le top. C'est pas parce que je l'utilise, c'est pas parce que voilà, c'est moi qui fais le choix, etc. C'est parce que c'est vraiment, pour moi, l'outil parfait pour beaucoup de choses. Et en plus, ils ont aussi un plan, comme je t'avais dit, un plan de parrainage. Donc, pour ceux qui sont un peu frileux à ce niveau-là, si vous avez beaucoup de copains, vous pouvez très facilement, vous faire plaisir, quoi. Petit mot de la fin.